Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons, si vous le voulez bien, ouvrir un passage dans le Nouveau Testament, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, et nous allons lire une dizaine de versets. Voilà. Donc, je rappelle, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 11, et nous allons entreprendre notre lecture à partir du verset 22. Paul écrit ceci à ses lecteurs. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils des ministres ou serviteurs de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril sur les villes ou dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus, le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni éternellement, je sais que je ne mens point. Voilà. Voilà une entrée en matière assez brutale, abrupte, nous pourrions dire, sur ce que a pu représenter un ministère ou un service dans le cadre de l'Église première, de l'Église primitive, l'apôtre Paul. On a souvent présenté Paul comme un géant de la foi, comme quelqu'un qui a la ressemblance d'un Moïse, ou des hommes qui se sont distingués dans l'histoire d'Israël et puis dans l'histoire tout court, des hommes qui avaient véritablement des hommes d'exception. Faut être exceptionnel pour remplir un tel ministère, pour remplir une telle vocation. D'ailleurs, il le dira lui-même, il l'écrira en lettres de feu dans une de ses épîtres. Il dira « Mais qui peut être suffisant pour toutes ces choses ?» Et il dit, mais c'est Dieu qui donne la capacité. Donc il y a des hommes d'exception comme ça. Et nous en trouvons, et ils nous ont ouverts pour des siècles, jusqu'à ce que Jésus revienne. Eh bien, je dis bien, pour des siècles, la voie sur laquelle nous marchons aujourd'hui. Ou, tout simplement, eh bien, nous pouvons vivre notre foi. Alors, on a devant nous les tribulations, donc, d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Paul. Alors vous savez que Paul n'a pas été toujours ce qu'il a été, hein. Comme nous le découvrons, il y a eu une conversion. Et quelle conversion sur le chemin de Damas? À travers une révélation qui lui a été donnée alors qu'il était persécuteur du christianisme naissant, opposé farouchement jusqu'au crime. Et en cela, il ressemble à Moïse. Eh bien, à toute pensée donc qui était venue pour accomplir eh bien, cette pensée de Dieu, cette volonté de Dieu que l'on appelle le judaïsme, et qui a eu ce prolongement formidable et merveilleux à travers le christianisme. Parce que tout cela, ça va l'un avec l'autre. Jésus n'est pas venu nous dire qu'il avait aboli la loi, mais il est venu l'accomplir d'une manière spirituelle. Paul a été cet homme, plus que tous les autres. Et vous avez remarqué avec moi, il fait l'énumération. Parce qu'on est en train de décrier son ministère en disant, mais c'est pas un apôtre. c'est pas un évangéliste, c'est pas un pasteur. Vous vous rendez compte? Lui, il a jamais vu Jésus, alors par rapport aux 12 qui avaient marché avec Jésus. Et il a été toute sa vie persécuté, il a été toute sa vie décrié par des gens qui, le déconsidéraient. Il a dit, voilà, écoutez, vous voulez savoir le prix que j'ai payé pour être véritablement ce que je suis et apporter au monde, eh bien, le salut. Alors, il parle d'emprisonnement, pardon. Il parle de persécution, il parle de lapidation, il a faim, il a soif, il connaît par mille misères. C'est un peu le Job de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, si vous voulez. Et vous savez ce que ça a eu pour effet? Et c'est peut-être là ce qui provoque notre réflexion. Parce que les choses ne se sont pas passées dans la facilité, elles se sont passées dans vraiment le désert. Un désert physique, faim, soif. Un désert moral. La haine de ses ennemis. La trahison de ses amis. Et spirituellement, quel combat contre les puissances mauvaises. Vous savez ce que ça produit? Non pas chez lui le découragement, la démoralisation et l'abattement, mais le trésor qu'il nous livre et dont nous allons faire un parcours très bref ce matin, c'est que même dans ses emprisonnements nombreux, alors qu'il avait été appelé à courir le monde ou à appelé à parcourir le monde jusqu'aux extrémités de la terre pour parler, eh bien vous savez, il n'a pas toujours eu le temps de parler parce qu'il s'est retrouvé souvent à l'ombre, eh bien il a écrit. Et vous savez que l'apôtre Paul est probablement l'écrivain le plus prolixe, le plus fécond de toute la Bible, et particulièrement du Nouveau Testament, puisque à lui seul, il a rempli 13 épîtres. Et vous allez voir pourquoi. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. 13 lettres qui nous servent aujourd'hui et qui sont à la base de la construction de l'Église chrétienne. Il n'a pas enseigné une religion. Il a enseigné le royaume de Dieu, il a enseigné la foi en Christ et la manière à la fois de croire et la manière de vivre sa foi en proposant à tous ceux de tous les temps, eh bien, les écrits, Anciens et Nouveaux Testaments, les offrant et faisant l'autorité de notre foi, de notre confiance en Dieu. Il ressemble à Joseph, vous savez, le patriarche, qui lui a été pendant à peu près 15 ans en prison et qui est devenu le premier ministre de l'Empire d'Égypte. Quelle humiliation! Il ressemble à David, le grand roi d'Israël, qui a été fugitif pendant 20 ans dans sa jeunesse, à fuir le roi Saül qui voulait le mettre à mort. Et c'est là où il a appris. Vous savez, ce n'est pas toujours dans les écoles de théologie, bien qu'elles soient certainement nécessaires pour l'instruction, mais c'est souvent dans les prisons, enfin, c'est souvent dans les déserts, c'est souvent dans toutes sortes de choses semblables qui ne sont certainement pas très, très agréables et qui, quelque part, où l'injustice est monstrueuse, que celle-là nous apprenons plus. Parce que nous sommes coupés de tout le reste et nous n'avons plus qu'un seul interlocuteur, c'est le Seigneur. Et lui nous enseigne des choses. C'est pas dans l'épreuve que nous allons mourir. C'est pas dans l'épreuve que nous allons disparaître. Au contraire, Dieu va nous faire vivre. Comme des tisons arrachés du feu, nous en sortirons encore plus forts. C'est ce qu'il est dit, hein, d'ailleurs, dans le texte. Je vous parlerai de Jean-Baptiste, par exemple. Jean-Baptiste qui a fait une mission extraordinaire en baptisant les Juifs qui venaient au Jourdain. Et à un moment donné, il est prisonnier. Il se retrouve accusé honteusement, d'une manière innommable, par la concubine d'Hérode, qui va dire à Hérode, tu lui coupes la tête à celui-là, parce que véritablement il commence à nous ennuyer avec ses histoires de royaume de Dieu. C'est ce qui s'est passé, il a perdu la vie. Et puis, je vous dirai Pierre, le grand apôtre Pierre, qui apparaît comme aussi un géant dans le Nouveau Testament, ben lui aussi est allé en prison. Mais il n'est pas resté longtemps. Vous connaissez l'histoire, dans le livre des Actes, il a fait une expérience formidable. Il savait pas s'il rêvait ou s'il était vraiment conscient, mais il a été libéré d'une manière extraordinaire. Alors, ceci dit, simplement pour situer, je rappelle que Paul a écrit, dans ses temps d'adversité, 13 lettres, Et il a laissé par ce fait même, dans des conditions extrêmement difficiles, elle a laissé à l'Église universelle un héritage spirituel colossal dont chacune de ses lettres délivre un message spécifique d'exhortation, d'encouragement, d'édification. Et c'est ainsi que l'on a appelé les lettres de Paul, eh bien, en quelque sorte les pierres sur lesquelles ont été fondées l'Église chrétienne. Ce n'est pas la tradition, ce n'est pas une théologie religieuse qui apparaît à ce moment-là, comme les hommes à travers tous les temps savent le faire, une philosophie à caractère religieux. Mais c'était véritablement de cibler que Jésus est le Sauveur, que Jésus est le Rédempteur, qu'il est ressuscité donc vivant, qu'il est monté au ciel et qu'il revient bientôt pour enlever son Église et bien d'autres choses naturellement. On va le découvrir. Son ministère à ce titre a été complet, comme il est dit par exemple dans Éphésiens, je cite parce que vous connaissez probablement ces textes, mais permettez-moi de les rappeler. Dans Éphésiens 4, c'est de la manière dont l'Église fonctionne, ce qu'elle est, parce que je voudrais dire cela à l'occasion, parce que nous allons avoir une assemblée générale annuelle. Et c'est vrai que l'Église, nous sommes tellement habitués. Mais c'est bien peut-être de le rappeler, son origine, à travers sa destination, à travers l'espérance que nous trouvons, à travers la communion fraternelle, à travers toutes ces choses, l'enseignement, à travers ce que nous allons partager ensemble, le repas de Sainte-Cène, qui est fondamental, qui est le cœur même de l'Église, et puis les prières, cette expression qui nous amène ou qui amène le peuple de Dieu à se confier, parce que c'est une manifestation de confiance et de foi lorsque nous prions. Autrement, c'est pas la peine de prier, naturellement. Si on prie les nuages, ça ne sert à rien. Donc, on s'aperçoit que c'est Paul qui écrira ça parce qu'il a bien compris ce que Dieu lui avait assigné. Et dans Éphésiens chapitre 4 et au verset 11, il est dit ceci, cette parole, que Dieu a donné les uns comme apôtres, il était apôtre, les autres comme prophètes, Paul était prophète, les autres comme évangélistes, c'était un formidable annonceur de Christ vivant, de Christ ressuscité, les autres comme pasteurs. Combien d'églises dans sa vie qui a duré à peu près une trentaine d'années de ministère, hein? On estime qu'il est mort à peu près à 60-65 ans. Mais il a eu 30 ans de ministère parce qu'il s'est converti, c'était un jeune homme. Mais il était un formidable pasteur parce que quand il ouvrait une église, imaginez-vous à l'époque, ça n'existe pas, hein? Alors à ce moment-là, eh bien, il suscitait la foi. Le ministère d'évangéliste, il donnait quelques enseignements et après, ensuite, c'était quelqu'un qui venait derrière pour établir et construire. C'est comme ça que le christianisme est venu jusqu'à vous. 2000 ans, combattu, honni ce christianisme, et qui est pourtant encore aujourd'hui, quoi qu'on en dise. Et il a passé toutes sortes de tempêtes à travers l'histoire, à travers les civilisations, les bouleversements, les guerres, à travers les persécutions, les tribulations, tout ce que vous voulez, mais il est encore là. Le royaume de Dieu, le message de Jésus-Christ est encore au milieu de nous. Et puis, pasteur et docteur. Et Paul était un docteur, alors. Comprenez ce que je veux dire. Docte. Celui qui sait, celui qui connaît. Celui qui est capable de révéler la pensée de Dieu la plus profonde et la plus mystérieuse et de la rendre simple à la compréhension des hommes qui écoutent. C'est ça, justement, la gloire. En quelque sorte, c'était un pasteur enseignant qui savait prendre la parole de Dieu et l'amener à la compréhension, parce que si on ne comprend pas, alors on est loin de ces manifestations religieuses dans une langue étrangère, latin ou autre, hein, naturellement. Ben, si c'est dit, c'est pour que ça soit compris, autrement, ben, c'est pas la peine. Alors, nous sommes devant, justement, ces exemples. Alors, brièvement, il a écrit une deuxième lettre qui s'appelle la lettre de Paul aux Thessaloniciens, qui est une ville aujourd'hui qui existe, hein, Thessalonique en Grèce, dans le nord de la Grèce. On les a appelés les épîtres prophétiques. Vous vous souviendrez de ça. Ça vous donnera, comme ça vous pourrez dire, j'ai lu la Bible en entier. Les épîtres prophétiques, parce que Paul y met véritablement tout l'accent sur l'espérance chrétienne dans le retour de Christ. C'est-à-dire que Jésus est venu une première fois comme le Messie et le Sauveur des hommes, dans l'humiliation, simple homme parmi les hommes et les plus pauvres et les plus malheureux, volontairement se laissant crucifier, mourant pour nos péchés, pour notre rédemption, mais selon les paroles mêmes de Jésus en disant « Je suis venu, mais je reviens ». C'est ce qu'on appelle tout simplement l'eschatologie en théologie. Enfin bon, vous allez pas retenir ça, c'est pas la peine. Mais une chose qui est certaine, c'est que Jésus est venu pour sauver les hommes et il revient pour sauver les hommes. Pour les emmener, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont maintenu à travers les siècles, eh bien la foi. Paul était assurément à ce titre un prophète. Ah, il a dit des choses extraordinaires et qui doivent encourager finalement la foi des chrétiens que nous sommes. Parce que nous l'attendons, Jésus. Bien que le monde semble aller dans le sens contraire. Mais c'est notre espérance. Elle est belle parce que nous ne nous attendons pas à la terre. Bien que nous sommes des hommes de la terre avec un témoignage qui doit aller dans le sens finalement de nos concitoyens ou de nos compatriotes. Mais nous ne regardons pas et nos yeux ne sont pas fixés uniquement vers la terre. Ils sont fixés vers le ciel, d'où Jésus revient bientôt. Alors oubliez ce qui s'est passé le 21 décembre dernier. Hein, parce que là c'est... D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Il a écrit également la lettre aux Galates, plus la première et la deuxième aux Corinthiens et l'épître aux Romains, qui sont des épîtres doctrinales. Les deux premières étaient prophétiques. Celles-ci, elles sont doctrinales, la doctrine. Pas le dogme religieux, mais les fondements de la parole de Dieu exprimée ou est exprimée la volonté de Dieu. Dieu s'est exprimé à travers l'Ancien Testament, par des hommes comme Moïse, parce que c'était lui le Paul de l'époque, on pourrait dire. Et le Moïse du Nouveau Testament, eh bien, c'est Paul. Et il a fondé la foi. Et nous nous apercevons que lorsque nous lisons ces épîtres, eh bien, c'est un exposé magistral. Je dis bien magistral de la foi et du plan de salut de Dieu pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Jusqu'ici, c'était une proclamation qui était maintenue dans le cadre de l'Israël de Dieu. Et maintenant, avec la venue de Jésus, le salut est devenu universel pour tous les hommes. Et ça, c'est assez considérable. Et il a montré le chemin pour être sauvé par la foi. Que tout cela, c'était pas la loi, mais c'était la grâce. Et que la manifestation de Dieu, c'est l'amour. Et que celui qui croit à cette grâce, qui le saisit par la foi, et qui vit dans cette imitation de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, alors à ce moment-là, eh bien, les motivations qui sont les nôtres pour être chrétien, ce n'est pas le devoir, ce n'est pas l'obligation, ce n'est pas l'esclavage ou la servitude, c'est tout simplement parce qu'on aime. Et ça, ça change tout au visage du christianisme. Je suis et je fais ceci, je parle et voilà, c'est parce que j'aime le Seigneur. Ça change tout. Ensuite, pour nous dire que Paul, en ce sens, était un apôtre. Ouais. Il y avait également les Colossiens, les Éphésiens, les Philippiens et Philémon. Vous avez remarqué que ce sont des lettres qui sont écrites à la destination des premières communautés chrétiennes. Alors comme ils appelaient, comme ils étaient dans la ville de Colosse ou dans la ville de Philippe, qui sont des villes de l'histoire évangélique, comme aujourd'hui peut-être, si la pensée m'en vient, si j'ai l'inspiration, j'écrirai peut-être une lettre aux Rodonnais ou aux Nazériens. Mais attendez, hein, faites attention à ce que je vais écrire. Voilà, c'est pour montrer que c'était quelque chose de très ciblé naturellement. Et ce sont des lettres relatives à la vie chrétienne pratique. Être chrétien, c'est pas dire tout simplement « je suis chrétien, regardez, moi je crois en Dieu, etc. » avec un petit badge sur ou un t-shirt « j'aime Jésus », c'est pas ça. Hein. Parce que ça, tout le monde peut le faire, enfin bon. Mais c'est de l'être un petit peu plus que le rebord du vêtement. Et vous savez que dans le rebord du vêtement, pour messieurs, hein, naturellement, il y a le cœur derrière. Et ça, c'est autre chose. Parce que être chrétien, c'est de le vivre. C'est de le mettre en pratique à tel point que quelqu'un puisse dire, dans notre engagement social, professionnel, auprès de nos amis, dans notre famille, en disant « mais je sais qu'il vit ce qu'il croit ». Comprenez qu'il y a une direction et que là, il n'est pas là tout simplement, eh bien, pour dire il est chrétien, mais vous savez, à travers ça, quand il a des petites occasions de... Non, un chrétien, c'est un homme qui a le souci de la vérité, de la justice, quoi qu'il en coûte. Eh oui, pas toujours facile, c'est ce qu'on appelle, et c'est ce que Jésus enseignait, c'est renoncer à soi-même. Et à ce moment-là, eh bien, c'était la vie de l'apôtre Paul, on l'a vu, hein. C'est-à-dire l'expérience de notre foi, l'expérience de Jésus-Christ et l'expérience de vivre en Église. C'est pas évident. Vous savez que les Églises sont désertées. Vous savez que les Églises, de toute catégorie hein, d'ailleurs, hein, sont décriées. Que l'athéisme à notre XXe siècle était monté à des sommets, parce que les gens étaient quelque part désabusés du témoignage chrétien. Mais c'est pas de ce témoignage-là dont nous parlons. C'est d'un témoignage, souvent, silencieux, mais vécu. D'une pratique. De savoir que notre Dieu, notre Sauveur, c'est Jésus. Et nous sommes des chrétiens, tout simplement, qui appartenons à Jésus. Et de ce qu'il a dit, manifestant sa volonté. Ça, c'est quelque chose. Alors, dans ces épîtres Colossiens, Éphésiens, Philippiens et Philémon, nous voyons que Christ tient la place principale. Je le rappelle, ce n'est pas une institution, ce n'est pas un mouvement religieux représenté par une autorité souverain pontife ou président de je ne sais pas quoi, ou pasteur, ou hyper-pasteur, ou hyper-apôtre, enfin tout ce que vous voudrez, non. L'essentiel, c'est Jésus. Parce que Jésus nous dit, hein, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et personne, aucun homme, aussi pieux soit-il, ne peut revendiquer la place de Jésus. C'est pas possible. Et il nous a donné finalement, eh bien, le code. Il nous a donné tout ce qui était nécessaire, vous savez, pour vivre et rester en relation avec lui. Et vivre en relation avec lui. Alors, Paul va s'y révéler dans ces quatre lettres comme le pasteur et le docteur, comme le berger qui conduit un troupeau. Et il dira ce qu'il y a, ce qui est nécessaire. Il parlera des fautes, mais que derrière les fautes, il y a le pardon de Dieu, si on sait se repentir. Il parlera de la conversion. Qu'est-ce que c'est que la conversion? C'est pas de passer d'une religion à une autre. C'est de donner son cœur à Jésus. Il parlera également, eh bien, par-delà tout cela, d'une vie nouvelle, la régénération, une transformation. Et il nous parlera aussi du baptême du Saint-Esprit, ô combien importante, encore de nos jours. Et puis ensuite, il écrira trois petites lettres, assez brèves, 1, 2, Timothée et la lettre à Tite, qui sont appelées les lettres pastorales. Alors les lettres pastorales, c'est un pasteur qui écrit, tout simplement, eh bien là, à des jeunes garçons, il y a Timothée et il y a Tite, qui sont appelés à remplir un ministère dans l'Église naissante. Et il va leur dire quel comportement a un pasteur. Ouais. Ça ne doit pas être cléricaliste, comprenez, mais ce sont des hommes qui ont été appelés à remplir une fonction, une mission. Non pas à s'enorgueillir et non pas à se faire toute une gloire parce qu'on est ceci et cela. Jésus le dira et le rappellera, mais attendez, sachez que si vous voulez être grand, eh bien d'abord commencez par être petit. Alors, ça c'est les épîtres pastorales où le service et l'organisation fonctionnelle se fait jour dans l'Église. C'est ce que nous allons faire d'ici quelques instants. Parce que l'Église, c'est pas seulement un côté spirituel, mais il y a un côté matériel, il y a un côté qui touche finalement à ce qui regarde aussi les pouvoirs publics. Nous sommes une association cultuelle, de culte. Mais là où vous êtes, où nous vous accueillons, et puis le fonctionnement, et etc., ça compte. Et là, il l'a expliqué. Encore, je reviens à l'exemple de Romains, rapidement. C'est l'épître où il nous est parlé que nous sommes justifiés malgré nos fautes, par la foi en Jésus-Christ. Par la foi. La première aux Corinthiens, c'est que nous sommes sanctifiés par Jésus-Christ. C'est lui. C'est pas la peine de faire notre sanctification de toute force avec des mortifications et toutes sortes de choses comme les religions nous l'enseignaient. Nous sommes en Christ, nous croyons en Christ, c'est lui qui nous donne véritablement la purification de notre vie. Nous sommes sanctifiés en Christ. La deuxième aux Corinthiens, c'est la, c'est l'épître, la lettre où il nous est parlé que nous sommes consolés de toutes nos misères et de toutes nos souffrances en Jésus-Christ, par la foi. Ça commence comme ça, hein, d'ailleurs. L'épître aux Galates, eh bien, c'est que nous sommes des êtres libérés en Christ. Libérés de nos peurs, libérés de nos angoisses, libérés de nos péchés, libérés de nos tourments, libérés de notre passé, libérés de la méchanceté des hommes. Voilà cette lettre. Éphésiens, c'est certainement avec Romains la plus doctrinale, nous pourrions dire, mais la plus belle, c'est que nous sommes élevés en Jésus-Christ dans les lieux célestes. C'est que nous sommes des hommes sur la terre, nous vivons comme les autres, nous avons des implications dans la vie des hommes, dans la vie citoyenne, etc. Mais que nous sommes déjà virtuellement, moralement et spirituellement, eh bien nous vivons déjà là-haut parce que c'est là-haut que nous allons aller. C'est pas en bas. C'est pas mangeons et buvons parce que demain nous allons mourir, mais c'est parce que nous avons notre espérance de l'autre côté. L'enveloppe, le corps n'est qu'une enveloppe. Notre espérance, c'est notre âme et elle est dans notre âme et dans notre esprit de l'autre côté. Il y a Philippiens également. C'est que nous sommes des êtres satisfaits en Christ. C'est pour ça que les chrétiens qui se plaignent, eh bien, relisez cette épître parce que vous allez trouver des raisons de ne pas vous plaindre. Hein. Paul dit, j'ai reçu tout du Seigneur. C'est la satisfaction en Christ. Colossiens, c'est de devenir virtuellement parfait en Jésus. Nous sommes des hommes et nous allons devenir des créatures qui auront été accomplies de l'autre côté. 1 Thessaloniciens, c'est l'épître plein d'espérance en Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens, c'est que nous sommes glorifiés en Jésus-Christ. 1 Timothée, c'est être fidèle à Christ. 2 Timothée, c'est récompensé en Christ. Tite, c'est être des exemples de Christ. Et Philémon, c'est d'être transformé en Jésus. Je suis passé très vite. On me dit souvent que je suis très long, mais alors là, cette fois-ci, ça va être bon. Conclusion. C'est un petit clin d'œil que je fais au passage. Alors, conclusion, simplement, cette simple parole. Éphésiens, chapitre 1er, il nous est donné ces mots, versets 4 à 7. Il est simplement dit ceci, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a destinés dans son amour à être des enfants d'adoption. » Vous savez ce que c'est que l'adoption? Est-ce qu'elle, la valeur de l'adoption aujourd'hui pour un enfant qui n'a pas de parents? Par Jésus-Christ, selon son bon plaisir de sa volonté, pour célébrer sa gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et de 11 à 14, pour terminer, il est simplement rappelé, en lui, nous sommes aussi devenus des héritiers. On est compte que nous allons avoir un héritage. On passera pas par le notaire pour l'acquérir. Hein. Et pourtant, il y a déjà deux testaments à notre faveur. Il y a le premier qui a été supprimé parce qu'il était insuffisant. Et nous nous sommes aussi bénéficiaires avant tout du deuxième, le Nouveau Testament. C'est la Bible. Hein. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toute chose d'après le conseil de sa volonté. Ça, c'est la théologie un peu de Paul, elle est un peu compliquée. Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Vous savez que le but de l'Église, c'est que nous puissions louer, que nous puissions apporter nos actions de grâce et adorer notre grand Dieu. Parce que ça, c'est l'essentiel et c'est le principal. Alors, le maître mot, c'est en Jésus. C'est vivre en Christ. Lui en nous, par le Saint-Esprit, et nous en lui. Tout en un, en quelque sorte. Parce que Jésus est sauveur et il est Seigneur. Je le crois. C'est ma foi. C'est ma certitude. C'est mon assurance. Que ce soit aussi la vôtre, et je le sais. Mais que Dieu nous bénisse. Nous allons brièvement prier. Je demande à Monsieur Olivier de bien vouloir. C'est possible ce matin, Monsieur Olivier? Hein? Brièvement, lire simplement un texte, et puis nous allons partager le repas de Sainte-Seine. Merci à tous.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.